Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc Mathieu, c'est moi, 41 ans, mon épouse Claire. Pour vous faire un bref historique, j'ai été jeune comme tout le monde, j'ai été fêtard. J'ai commencé à fumer la cigarette assez jeune pour faire comme tout le monde. Sur les coups de 14 ans, je suis devenu vraiment fumeur à partir de 15-16 ans. J'ai commencé à fumer du cannabis à peu près à cette période-là. Du cannabis que j'ai vite pris régulièrement, quotidiennement. J'ai continué à grandir, j'ai fait beaucoup la fête, mais j'ai pas connu l'alcool de suite, bon, si ce n'est en famille. On vient des Antilles, donc le petit punch, j'ai dû goûter ça à 15-16 ans, et le verre de vin dans les bons repas de famille sur les coups de 11 ans. Mais c'était pas mon trip à l'époque. J'ai commencé à connaître l'alcool, je pense, à la fac à peu près, peut-être un peu avant, sur mes 18 ans. Et j'avais l'alcool festif, j'ai toujours été joyeux, j'aimais tout le monde, je me suis jamais battu. Et c'était des consommations uniquement le week-end et festif. Bon, après, je suis rentré dans la vie active assez vite, j'ai fait toutes mes études en alternance, dans les TP. Ça n'a pas aidé à la chose. Je suis allé jusqu'aux études d'ingénieur. J'étais ingénieur dans les travaux publics. Du coup, les repas avec les clients, les apéros à l'époque, c'était monnaie courante. Donc j'ai, jusqu'à mes 35 ans, bu correctement. J'ai eu un trauma crânien. Je suis tombé en skate en 2017. Et suite à ce trauma, j'étais hospitalisé une semaine, j'étais en arrêt un mois et demi. Je m'étais toujours posé la question de savoir qu'est-ce que je ferais si j'étais au chômage. Ça m'a un peu rassuré parce que j'ai vite voulu reprendre le boulot. Donc au bout d'un mois et demi, j'ai repris un mi-temps thérapeutique. Donc je faisais entre 10 et 12 heures par jour, hein, donc c'est un mi-temps. Et dans le TP, faire un mi-temps thérapeutique, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai pas eu forcément un grand suivi de mon trauma derrière. J'ai fait un bilan neuropsy je crois que c'était à 3 mois où il y a la tour de Gassine, qui disait que tout allait bien, si ce n'est que voilà, j'avais du mal à me concentrer. Mais à cette époque-là, voilà, j'avais gardé l'alcool festif et il ne m'a pas semblé que j'avais commencé à dérailler, si ce n'est que c'était du quotidien. Donc effectivement, maintenant, quand on boit plus de 2 verres de vin par jour ou par semaine, c'est, en tous les cas, on est considéré comme alcoolique. Ensuite, pour revenir un peu en arrière, sur mon histoire, j'ai quand même un frère de 2 ans moins que moi, qui est trisomique 21. On a 3 filles. Ma deuxième fille a une trisomie 9 partielle. J'ai toujours eu un rapport plus ou moins conflictuel avec mon père, mais tout ça, moi, je l'obscurcissais, je n'y pensais pas. Et depuis 2020, mi-2020, j'avais commencé à vraiment beaucoup plus boire. Sachant que nous, pour faire un retour en arrière, on a plutôt analysé ça sur le début, depuis qu'on a su la maladie de notre fille. Je rentrais le soir et je me servais un Ricard ou deux. Mais depuis 2020, ouais, c'était plus que ça, voire après, c'était la bouteille cachée dans la voiture. Et oui, j'étais passé à une bouteille de whisky ou une bouteille de rhum par jour, tout en continuant à bosser, donc en mettant aussi bien les usagers de la route que mes filles, que enfin, tout le monde en danger. Mais j'avais une assez bonne tolérance, donc ça se voyait pas plus que ça. L'une des séquelles de mon trauma, l'une des seules séquelles, c'est l'anosmie. Du coup, j'ai plus de droits. Donc quand je sentais l'alcool, ben moi je le sentais pas. Et ça a été quand même un effet bénéfique, cette anosmie, parce que ça m'a permis d'arrêter le pétard, tout simplement. Parce que je me suis dit, moi, j'appréciais sur les 10 dernières années, je fumais un pétard le soir parce que je faisais pousser de la bonne beuh et j'aimais bien la bonne beuh. Après, à paraître défoncé, je ne sentais pas la différence entre une clope et un pétard. Donc, j'ai réussi à arrêter facilement, mais du coup, j'ai remplacé sans le vouloir par la colle. Et du coup, j'ai commencé à me faire suivre fin 2020, début 2021 par une addictologue à l'hôpital suburbain. J'ai pas trouvé ça forcément très concluant et très bénéfique, et j'étais encore dans le déni, je pense, à cette époque-là. Je l'ai fait parce que mon entourage me l'a dit. Il m'a dit, vas-y, Mathieu, t'as un problème, il faut le faire. Donc je l'ai fait pendant 6 mois, 8 mois. Ça n'a pas matché plus que ça. Mon épouse m'a conseillé d'aller voir un psychologue aussi spécialisé dans les addictions. J'ai fait 7-8 rendez-vous, je me suis forcé, mais pareil, ça ne matchait pas, donc j'ai laissé tomber. J'ai fait début 2021 un burn-out dans ma boîte, parce que personne n'avait remonté le fait que je sentais l'alcool, que je pouvais avoir un problème avec l'alcool. Et j'ai fait un burn-out parce que mon patron continuait, lui, à m'asmater et à m'envoyer des réflexions qui n'avaient pas lieu d'être. Donc j'ai négocié une RC, j'ai quitté officiellement l'entreprise fin août 2021. J'ai même pas eu tant de pointé au chômage, on est venu me chercher, donc j'ai renchaîné sur un autre boulot, mais là j'avais déjà la bouteille et j'ai continué. Ça a duré 8 mois, on s'est quitté en très bons termes, et là j'ai pointé au chômage et puis j'ai essayé de me faire suivre un peu mieux. Et pendant l'été qui a suivi, j'ai contacté une de mes cousines qui m'a contacté, qui est psychiatre à Grenoble, et qui m'a conseillé d'aller voir, parce que justement elle savait que j'avais pas eu de suivi de mon trauma. Elle commençait à être au courant de mes problèmes d'alcool, et elle m'a conseillé d'aller voir le docteur Viard, qui m'a reçu à son cabinet et qui m'a conseillé d'aller, enfin qui m'a orienté vers l'Uéros, où on a fait un bilan neuropsy, et c'est là qu'il a diagnostiqué le syndrome dépressif, en plus de l'alcoolisme, dont je ne me cachais pas, mais toujours pareil, j'avais du mal à dire je suis alcoolique. Et suite à quoi, j'ai quand même continué dans la bonne démarche, mais là j'ai appris qu'on pouvait être, tout en essayant de se soigner, on pouvait consommer de manière contrôlée, j'ai essayé. Donc j'ai commencé pendant une semaine, je buvais une bière par semaine, et puis ça a duré une semaine. La semaine d'après j'en buvais 2, puis la semaine d'après j'en buvais 3, puis après j'ai repris une bouteille. En fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien. J'ai quitté l'hôpital suburbain, j'ai trouvé un autre addictologue qui m'a bien accompagné. Et la cure. Enfin, entre-temps, oui, j'avais fait une cure à l'hôpital suburbain aussi, qui n'a pas été bénéfique, mais j'ai enchaîné par une cure à la Gandillonnerie dans la Vienne cet été, qui a été concluante, mais je me suis quand même fait virer 15 jours avant la fin, parce que j'avais un droit de perme, mais il fallait que j'aille faire recharger ma voiture électrique, et comme il faisait beau, j'ai rien trouvé de mieux que me poser un bar et boire un demi-pêche. Et en rentrant, ils m'ont fait souffler, et j'avais pas percuté que... c'était complètement con, quand même. Et du coup, je suis rentré. Derrière cette sortie, ils m'ont lâché, c'était dans la Vienne quand même, ils m'ont lâché, sans prévenir mon entourage, rien du tout. Donc je suis rentré tout seul par mes propres moyens, même si ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas bu, hein, j'avais juste bu un demi-pêche le vendredi, j'aurais pu sortir, manquer une bouteille de Sky et faire les 2 heures de route pour rentrer jusqu'à Bordeaux. Voilà, et puis j'ai pas de nouvelles du centre depuis. Mais c'était quand même un bon centre.
Si, ils lui ont apporté des choses.
C'est qui tu veux parler ? Non, ils m'ont apporté des choses, j'ai commencé à faire du mindfulness, je me suis mis au sport. Donc j'avais une activité physique, j'étais dans l'atelier jardin, donc j'étais tout le temps dehors, c'était un centre qui était très sympa, et puis tous les responsables d'atelier sont des thérapeutes, donc dès qu'on avait besoin de discuter, on discutait, les ateliers étaient surtout là pour nous occuper. Mais en sortant, j'ai tenu une semaine, au bout d'une semaine, toujours en me cachant, j'ai repris une flasque, une semaine après j'en ai repris une, enfin voilà, j'ai pris trois flasques. Et puis on a eu une énième discorde avec mon épouse. Et depuis le 8 septembre, je suis abstinent. Ça fait 85 jours aujourd'hui. Et... Merci. Et dans tous les cas, le seul truc que j'ai pas mis en avant...
T'as mis un pouce en l'air.
Le seul truc que j'ai pas mis en avant, c'est mon épouse. Mon épouse et mes filles qui... Comme on a dit ce matin, comme il a été dit ce matin, que c'est dur pour l'entourage de voir qu'il y arrive, puis il n'y arrive pas, puis il y arrive, puis il n'y arrive pas. Elle m'a quitté plusieurs fois, mais sans me quitter parce qu'elle ne pouvait pas. On a fêté cet été nos 25 ans de vie de couple. L'an prochain, nos 15 ans de mariage. Moi, je ne me voyais pas vivre sans elle, sans mes filles. Et grâce à elle, je pense, hein, je m'en sors et je suis sur la bonne voie. Donc, je suis alcoolique, mais... Abstinent. Si tu veux rajouter.
Ce que je voulais vous apporter, moi, en tant que témoignage accompagnante, c'est que il y a une importance à intégrer l'entourage dans la compréhension de la maladie dès le début. En fait, sur l'historique qu'il vous a donné, avant la prise en charge avec l'hôpital suburbain, où on est en novembre 2020, il y a toute une période où nous, on sait ce qui se passe, où on essaye d'alerter en interne, pour qu'il puisse, si ce n'est qu'aller faire la démarche d'aller voir le médecin. Déjà, ça prend du temps, et pendant tout ce temps-là, on est déjà tout seul, parce qu'il faut que lui aille faire cette démarche de soins, ou alors on est en train de se confronter au questionnement de l'hospitalisation d'office ou des choses comme ça. On n'était pas dans cette situation-là, parce qu'on n'avait pas une situation de mise en danger, parce qu'il a... Il a un fond très bon, il n'a pas, l'alcool n'entraînait pas des comportements agressifs comme ça. Donc, il n'y avait pas ces besoins-là, mais du coup, ça a pris du temps pour qu'on sorte du gros déni, qu'on passe à un plus petit, j'ai envie de dire, et qu'on puisse au moins aller faire la démarche vers le soin. Et à ce moment-là, en fait, nous, on est restés de novembre 2020 à la rencontre du docteur Viard en septembre-novembre 2022, sans intégration, en fait, de lui dans son environnement familial ou social ou travail. Voilà. Ça a été une prise en charge vraiment très unique de lui, qui a été assez décousue. Ce matin, le professeur disait, voilà, en tant que thérapeute ou en tant que médecin, on doit s'interroger si dans les 3 à 6 mois, on n'a pas de retour, on voit que ça n'avance pas particulièrement, on doit s'interroger pour mettre en place d'autres thérapeutiques. C'est vraiment essentiel parce qu'en fait, nous, dans notre démarche, cela n'a pas été fait. Et c'est resté ainsi comme ça, de mois en mois, de rendez-vous annulés, de rendez-vous qui passaient finalement en visio, alors qu'on était sur une personne qui était jeune, qui avait des jeunes enfants, qui était inséré socialement, qu'on avait, j'ai envie de dire, toutes les motifs à vouloir le sauver. Et il n'y avait pas de retour d'expérience, et il en était à une consommation de 1 litre d'alcool fort au réveil le matin. Voilà. Et c'était sa consommation quotidienne, journée, week-end et autres. Donc ce retour du thérapeute de se dire, d'une part, il faut intégrer pour expliquer, parce que nous, pendant ce temps-là, à côté, dans la famille, alors il y a moi, mais il y a eu ma sœur, il y a eu ma mère, il y a eu sa mère aussi, on ne sait pas le craving, on l'a découvert en novembre 2022, cette questionnement du craving, c'est-à-dire que le suivi addictologique qu'il y a eu avant n'avait pas mis le doigt sur cette question-là. Nous, il y a la question de... moi, étant quelqu'un d'assez... De par mon métier, de par ma construction, assez... à me confronter aux choses et à ce que ce soit carré. Une fois qu'on a déterminé le problème, il peut y avoir une difficulté à arriver à déterminer le problème. Une fois qu'on a le problème devant soi, bon, on met les outils, on le règle. Et ça, c'est pas faisable, en fait, avec l'alcool. Voilà. Et donc, c'est difficile pour la famille d'être là et se dire... On nous dit c'est une maladie, d'accord, très bien. On nous dit, écoute, il aurait un cancer, tu ne lui demanderais pas de courir un 100 mètres. C'est mon associé avec qui je travaille, qui m'a aussi beaucoup aidé là-dessus, qui me disait, voilà, se calme. Toi, il aurait un cancer, il serait en chimio, tu serais en train de dire, écoute, tu peux courir 100 mètres, arrête un peu. Donc, il faut poser les choses. Mais c'est toujours, je prends toujours l'exemple, et je lui disais quand même... tu y vas à pied jusqu'au bureau de tabac, ou tu y vas à pied jusqu'à faire les courses. Je veux dire, à ce moment-là, tu es en train de marcher, à ce moment-là, tu sais ce que tu es en train de faire, tu es en train d'avancer vers, tu sais que tu y vas pour ça. Donc, arrête-toi, fais demi-tour, appelle, fais quelque chose. Et ça, c'est très difficile parce que nous, on ne sait pas comment se positionner. Est-ce qu'on doit être dans cette fermeté? Est-ce qu'on doit être dans l'acceptation? Est-ce qu'on doit être dans le cocooning? Et toutes ces informations-là, en fait, elles ne nous sont pas données si les professionnels ne nous intègrent pas dès le départ et ne nous expliquent pas dès le départ. Voilà, il se passe ça dans sa tête. Il y a ça qui peut se mettre en place. La notion de volonté n'est pas la même chose. La volonté d'arrêter n'est pas la même chose que la volonté de ne pas consommer. Et tous ces éléments-là, si ça nous aiderait de les avoir dès le départ, plutôt que de les découvrir et de les souffrir, en fait, parce qu'on se les apprend par elles-mêmes, parce qu'on discute avec les uns et les autres. Donc on les souffre. Les souffrants, on les comprend. On s'adapte. Voilà. Mais on est toujours en train de pas vraiment savoir si on est en train de faire la bonne chose, d'avoir la bonne réaction, d'avoir le bon mot. Disait, il y a des mots qui vexent. On s'inquiète d'avoir ces paroles-là qui vont, en fait, finalement, ne pas être du tout aidantes parce que stigmatisantes. Et on s'en cache pas. Des fois, on est excédé et on comprend pas comment c'est possible qu'avec ce qu'il était, son niveau, ce qu'on connaissait de lui, il n'y ait pas cette capacité à s'arrêter. Et donc, il a fait une première cure, effectivement, de 10 jours, qui était simplement les cures de sevrage. Il y a eu la même problématique après avec la cure de 3 mois, c'est ce que vous indiquez un peu, c'est-à-dire aussi là, au niveau de ces centres, au niveau des sorties de ces cures, on a eu de la chance parce que son docteur psychiatre addictologue en libéral nous avait parlé avant la cure, on en avait discuté avec lui, de l'hôpital de jour qui est à Bethany. Voilà, qui fait ce post-cure, qui fait cet accompagnement, parce que effectivement, quand on sort de cure comme ça, surtout dans les 2 fois les conditions où ça s'est passé pour lui, la famille n'est pas informée parce qu'on vous dit que c'est le secret médical. Donc voilà, vous n'avez aucun temps de préparation pour le retrouver chez vous, vous remettre en situation de protection s'il y a besoin. Et lui, il y a un arrêt brutal de tout ce qu'il a commencé à construire, et il n'y a aucune préparation au retour, voilà, tout simplement aucune préparation au retour, alors qu'on sait que derrière, on le renvoie dans la famille, potentiellement on le renvoie vers le travail, on le renvoie vers les autres, alors que pendant 3 mois, il a été dans un cadre protégé, avec toutes les interactions contrôlées. Donc lui, heureusement, on était à un stade où ça n'a pas posé de difficultés, mais on peut très bien imaginer que dans des stades beaucoup plus graves, il le renvoie comme ça, sans se soucier absolument pas de où il débarque et dans quelles conditions il y débarque. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire essentiellement sur le besoin de suivi et d'aide sur les accompagnements. Merci.